¡Cállate! 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 ¡Contrôle ton nom!
Vous êtes dans Pause Commune, un cycle d'émissions spéciales pour tenter de comprendre ensemble et dans la confusion à quoi sommes-nous face. Ralentir et réfléchir pour engager la riposte.
Populisme.
Populisme.
Thèse nationaliste.
C'est la tentation fasciste, le désir de fascisme.
Xénophobe.
Souveraineté autoritaire.
Populiste de droite.
De l'extrême droite.
Nationalisme au souverainisme.
Du djihadisme.
C'est le patriotisme. Le patriotisme.
Du terrorisme et de l'islamisme radical.
Populisme.
La montée.
Oui.
Ils sont à l'œuvre.
La montée.
Oui. Vous assumez de prononcer le mot.
La montée.
Oui.
La montée.
Le fascisme.
Je vous propose un exercice de respiration pour retrouver le calme en quelques minutes.
Bonsoir et bienvenue dans le cycle Pause Commune qui vous propose depuis début janvier et jusqu'à la mi-février des émissions spéciales autour des questions du fascisme, des extrêmes droites et de façon générale qui vous propose de questionner les mots MOTS et les mots MAUX de l'actualité et de tenter de désembrumer les réflexions dans la confusion ambiante. Ce soir, nous allons nous arrêter sur la question des nationalismes religieux. Et pour m'accompagner dans la préparation et l'animation de cette émission, Julie et Emilio Kodjo. Emilio Kodjo qui ne sera pas avec nous ce soir car il est malade, on l'embrasse très fort, et qui avait donc préparé la partie que nous avions annoncée sur les États-Unis et que nous ne traiterons pas ce soir. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Et pour nourrir ces réflexions, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Dallage et Dominique Vidal. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, et, entre autres, et vous avez dirigé l'ouvrage « L'essor des nationalismes religieux » sorti en novembre dernier aux éditions Démopolis. Et bonsoir Dominique Vidal.
Bonsoir.
Vous êtes également journaliste, essayiste et avez notamment contribué à cet ouvrage que je viens de citer sur la question du nationalisme religieux israélien. Et vous avez notamment aussi sorti un livre, vous pouvez me redonner le titre ?
Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron.
Très bien, qu'on peut retrouver aux éditions...
Aux éditions Libertalia.
Libertalia, très bien. Bien, merci à vous deux de nous accompagner ce soir. Nous vous proposons, chères auditrices et chers auditeurs, de commencer cette émission sur un panorama des questions liées à notre sujet de ce soir et de zoomer progressivement sur la question israélienne, pas les États-Unis comme je vous l'ai dit, et puis sur la question ou sur le cas de l'Inde, peut-être un peu moins connu parmi les nationalismes religieux. Alors pour commencer, pour ouvrir cette porte, la porte de cette émission, pouvez-vous définir ce qu'est et ce que n'est pas le nationalisme religieux selon vous ? Alors je ne sais pas, Olivier, vous voulez ouvrir la porte ?
J'ai commencé par ce qu'il n'est pas, à mon avis, c'est-à-dire ce n'est pas l'association du politique et du religieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un parti se réclame d'une religion que ça en fait un parti nationaliste religieux. Je vais donner deux exemples assez connus en Europe. C'est la démocratie chrétienne en Italie. Bon, elle n'est plus grand-chose aujourd'hui, mais elle existe encore en Allemagne. Ce sont des partis qui se revendiquent ouvertement du christianisme, du lien avec l'Église. Et ce sont deux parties qui ont joué un rôle très important dans la construction de l'Union européenne, enfin du marché commun puis de l'Union européenne, qui est l'antithèse du nationalisme. Donc, ça n'est pas ça. Le nationalisme religieux, il faut utiliser les deux termes, nationalisme et religieux, c'est d'abord un nationalisme. C'est-à-dire que c'est une définition, une vision de la nation. Fantasmé ou non, ça dépend du point de vue où on se place, mais disons, comme disait Benedict Anderson, une communauté imaginée, c'est-à-dire de gens qui se retrouvent dans ce qui est commun. Et ce qui est commun dans le nationalisme religieux, tel que le conçoivent ses initiateurs, c'est l'appartenance à une religion. Et on y reviendra très certainement à travers les différents exemples, que ce soit l'Inde, Israël ou d'autres. Moi, j'ai été frappé pendant le travail de préparation de cet ouvrage qu'il n'y a pas une place aussi grande que je le pensais pour le divin. C'est-à-dire qu'on peut faire de la religion sans Dieu, en gros. Et d'ailleurs, on voit que dans différents pays, les idéologues de ces nationalismes religieux ont un lien très ténu avec la religion. Et donc, c'est beaucoup plus quelque chose d'un nationalisme culturel dans lequel la religion occupe toute la place de la culture et qui, essentiellement, est mise en avant pour éliminer ceux qui ne se retrouvent pas dans cette religion. Après, on reviendra dans les détails, mais sommairement, c'est un petit peu comme ça que moi, je vois le nationalisme religieux.
Mais c'est une sacrée contradiction quand même que d'être la voix d'un nationalisme religieux sans être soi-même religieux comme Trump, Modi ou Poutine.
Oui, non, Modi, je ne dirais pas qu'il n'est pas religieux. Je pense que lui, il est. Mais par exemple, restons en France. L'Action française, Charles Maurras, il voulait que la religion catholique joue un rôle très très important, essentiellement en tant qu'ordre social. C'est un contrôle social de la nation. Mais les convictions religieuses de Charles Maurras lui-même ont été sujettes à caution quasiment jusqu'à sa fin. Était-il athée? Était-il agnostique? Était-il légèrement catholique? En tout cas, sa pratique personnelle n'était pas à la hauteur de l'idéologie qu'il a propulsée. Mais ça se comprenait très bien si on estimait que l'Église catholique était là comme instrument de contrôle social de la population afin qu'elle ne remette pas en cause l'ordre établi et qui rendait les services que ses concepteurs avaient en tête.
C'est un instrument, la religion, dans le cadre
dans ce cadre-là, oui.
Et le nationalisme religieux, c'est une idée relativement... Oui, Dominique Vidal.
Non, je voulais faire une remarque un peu générale, mais qui me paraît importante. Quand nous étions jeunes, Olivier et moi, c'était il y a un moment, on simplifiait les choses. Hein, on avait des schémas de pensée, qui n'étaient pas forcément faux d'ailleurs, mais qui nous amenaient à simplifier. Avec ces grilles-là, aujourd'hui, on ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe dans le monde. Même s'il y a des données permanentes. Voilà. Donc, c'est très important... Quand on a affaire à des phénomènes réels, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais à des phénomènes réels, complexes, de les laisser complexes, de ne pas essayer à tout prix de les simplifier. C'est vrai du nationalisme, qui à mon avis est le mot qui compte dans le livre qu'Olivier a dirigé. C'est ça qui est important, c'est le nationalisme. Et un de ses instruments, c'est la religion, telle qu'elle est utilisée à des fins politiques, idéologie. Mais c'est vrai aussi si on parle du populisme, ou tout autre concept qui aujourd'hui sont des concepts qui sont à la mode, dont on parle beaucoup et qui correspondent à des réalités, il ne faut pas les simplifier. Donc je dirais en particulier, je suis d'accord avec Olivier, laissons à la religion ce qui lui appartient et qui n'a grosso modo rien à faire dans nos débats ici. Elle est utilisée. J'en parlerai tout à l'heure. Je donne un exemple simple pour la Palestine et Israël. Qu'est-ce qui fonde le fait de créer un État juif en Palestine, historiquement ? C'est la Bible. C'est le fait que Dieu, paraît-il, a donné cette terre à Abraham et à sa descendance. Alors c'est un peu plus compliqué parce que la descendance, comme on sait, d'Abraham, elle est double. Donc il faudrait en tenir compte au niveau de la géopolitique régionale. Mais en tout cas, on a évidemment un argument biblique qui est le centre même de la justification du projet politique, du projet sioniste. Donc on voit bien là, c'est l'utilisation. Ça n'a strictement rien à voir
avec la religiosité,
avec les rabbins, avec les gens qui sont dans les yeshivot, dans les écoles religieuses, qui sont on est dans deux mondes qui n'ont pas de lien autre que à un moment donné la décision d'utiliser ou de ne pas utiliser l'élément religieux, l'argument religieux.
Un outil. Olivier Dallage.
Pour respecter la complexité dont vient de parler Dominique Vidal, je voudrais me contredire, c'est-à-dire apporter une forte nuance à ce que j'ai dit. J'ai dit que certains des théoriciens du nationalisme religieux dans leur pays, eux-mêmes n'étaient pas des parangons de religion, étaient soit athées, soit agnostiques, soit faiblement religieux. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui épousent ces théories du nationalisme religieux ne sont pas sincèrement religieux, sinon ça ne marcherait pas. Et donc voilà, il faut tenir les deux bouts de la ficelle pour avoir une vision complète de ce phénomène.
Oui, il y a plusieurs figures, et d'ailleurs c'est vrai que dans l'ouvrage, on traverse le monde, on est sur tous les continents dans l'essor des nationalismes religieux. On passe par l'Inde, les États-Unis, Israël, la Turquie, la Pologne, la Russie, etc. Donc voilà, chaque cas est bien particulier et ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, chacun de ces cas. Le nationalisme religieux, c'est une idée relativement neuve à l'échelle de l'histoire, c'est bien ça, Olivier Dallage ?
Le nationalisme est une idée relativement neuve à l'échelle de l'histoire. Si on considère que la notion de nation au sens moderne est apparue avec le traité de Westphalie, dans le vocabulaire politique, elle n'est apparue réellement qu'au moment de la nation française, de la Révolution française, où on mobilisait le peuple français au nom de la nation. Et on sait qu'après, la notion de nation a fait l'aller-retour à plusieurs reprises entre la droite et la gauche, parce que voilà, c'est la nation est censée rassembler tout le monde et chacun y mettait sa définition. Alors, le nationalisme religieux apparaît dans différentes régions du monde à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Donc les idéologies en tant que telles se formalisent en empruntant beaucoup d'ailleurs à l'Europe, même quand c'est à l'autre bout du monde, à peu près cette période. Mais dans le titre du livre, il y a nationalisme religieux, il y a aussi essor. L'essor est, lui, encore plus récent, parce que ces idéologies ont...
Elles étaient assez souterraines.
Non, elles n'étaient pas souterraines, mais elles étaient ultra minoritaires et déconsidérées, soit par des compromissions ici ou là avec la puissance coloniale, même si aujourd'hui on réécrit l'histoire et on explique que c'est le nationalisme religieux qui a obtenu les indépendances dans plusieurs pays, ça n'est pas vrai, mais aussi parce que jusqu'aux années 70, 80, 90, tout l'espace était pris par des mouvements nationalistes, entre guillemets progressistes, ou en tout cas laïques, qui ont accompagné la montée vers les indépendances et la gestion des pays après les indépendances. Et c'est l'échec de ces pouvoirs dans la corruption, dans l'incapacité à trouver des solutions qui ne dépendaient pas uniquement de la fin du colonialisme, que les déceptions se sont reportées vers d'autres. Et là, justement, il y a des gens qui étaient avec du prêt à penser, disponibles pour prendre le relais.
Oui, Dominique Vidal.
Oui, on peut donner l'exemple, pas seulement d'Israël et de la Palestine, mais du Proche-Orient en général. C'est-à-dire, on a eu très tardivement, en fait, quand on y regarde de près, c'est-à-dire les années 80, 90, une poussée de ce qu'on appelle l'islamisme. On ne va pas rentrer dans le débat sur la définition de l'islamisme, mais considérons que c'est le mot qu'on peut utiliser.
L'islam politique.
L'islam politique, si on veut, pour simplifier. Cette poussée, elle a évidemment des causes religieuses, mais ça n'est pas ça le point de déclenchement de la vague qu'on a vue se développer à partir de la révolution islamique en Iran. C'est l'échec, ce que vient de dire Olivier, mais je le transpose au Proche-Orient, l'échec de l'ensemble des mouvements nationalistes laïcs qui, sous le nom de socialisme arabe, ont fini par échouer. Échouer à la fois dans la situation qu'ils ont faite à leur propre peuple, et puis échouer dans la lutte contre le projet sioniste, le développement de l'État d'Israël, etc. Donc on a eu, si vous voulez, du fait de cet échec, un vide, et la nature et la horreur du vide, même au Proche-Orient, et c'est le recours à l'islam comme élément politique qui a permis de combler ce vide. Ça ne veut pas du tout dire que ça va continuer 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en sait rien. Ça dépend des dynamiques politiques. Pour l'instant, on est dans cette dynamique-là. Mais je vous fais observer que dans les révolutions arabes, par exemple, il y avait une dimension religieuse, les forces islamistes ont eu un rôle non négligeable, mais il n'y avait pas qu'elles. Il y avait beaucoup d'autres forces qui se sont retrouvées dans ces révoltes, qui pour l'instant n'ont pas réussi, mais personne ne peut nous garantir qu'elles ne vont pas se reproduire. En tout cas, moi, personnellement, je l'espère pour eux, pour qu'ils sortent d'années et d'années, de décennies de régimes dictatoriaux, autoritaires, qui ne permettent pas du tout le développement économique, social, culturel de ces peuples.
Et quels sont les autres facteurs, les autres causes de l'essor de ces nationalismes religieux ?
Je pense que... En particulier en France, on est assez mal outillé pour discerner l'émergence de ces nationalismes religieux. On n'est pas les seuls, mais je veux dire, il y a un facteur tout particulier en France qui est la tradition laïque depuis la fin du XIXe siècle. Ce qui fait que tout ce qui est religieux a longtemps été interprété à l'aune d'une survivance d'un passé obscurantiste. Et donc, il y avait, oui, il y a la révolution iranienne, mais bon. Et si on regarde plus loin, c'est pas dans le sens de l'histoire, etc. Et beaucoup de gens ont été... alors aveuglé, c'est peut-être un grand mot, mais disons myope. Ils n'ont pas vu monter ces choses. Et c'est vrai que la montée, c'est peut-être pas faite de façon concomitante partout, mais enfin, quand on regarde la planète, on voit bien rétrospectivement ces signaux qui se mettent en place, et simplement on n'a pas enfilé les perles pour voir que ça faisait un collier. Aujourd'hui, on peut le dire avec le recul, parce que c'est difficile de le nier, ça apparaît à peu près partout. Donc il y a, et je pense encore une fois, que la notion d'échec des autres solutions... compte énormément dans l'explication. Il y a peut-être qu'on a sous-estimé le conservatisme profond de grande partie de la population, et que certains excès, ou en tout cas perçus comme tels, de la modernisation, a suscité en retour un contre-choc réactionnaire. Et d'une certaine manière, les nationalismes religieux, en fantasmant un passé qui, dans bien des cas, n'a jamais existé, mais ça, c'est le grand truc de l'invention de la tradition que connaissent bien les anthropologues, les ethnologues et toutes sortes de scientifiques dans les sciences humaines.
Communauté imaginaire.
Communauté imaginaire. Mais la grande tradition à laquelle on se réfère, quand on gratte un petit peu, elle a rarement plus de 200 ans. Et ça, c'est vrai sur toute la planète. Et on voit bien des batailles aujourd'hui pour respecter des traditions millénaires qui, en fait, ne sont pas du tout millénaires. Et donc, cette combinaison de... Ah oui, pardon, une troisième raison tout à fait essentielle qu'on évoque également dans le livre, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation a fait des gagnants et des perdants, mais l'inquiétude suscitée par la mondialisation fait l'affaire de tous ceux qui disent... repliez-vous sur ce qui vous protège. Et qu'est-ce qui vous protège ? C'est la communauté nationale. Dans un genre tout à fait différent, on a pointé à une époque que le mouvement du Chiapas de sous-commandant Marcos a émergé au moment précis où était signé le traité de l'ALENA, c'est-à-dire le libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Bon, ça a été une réponse, mais d'autres réponses sont de nature nationaliste.
Oui, Dominique Vidal.
Oui, je voulais dire une chose qui me paraît importante, c'est qu'on parle de nationalisme religieux, qu'on parle de populisme, ou qu'on parle d'extrême droite, on parle de forces néofascistes, etc. Enfin, on peut faire une liste comme ça des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Enfin, vous êtes, vous deux en particulier, confrontés parce que vous avez plus d'avenir dans la lutte contre ces phénomènes. Il faut bien avoir en tête que le point de départ, c'est quand même l'absence d'alternative. C'est-à-dire on se trouve avec ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire les conséquences de la mondialisation, qui sont, je ne dis pas 100% négatives, mais qui sont quand même très largement négatives, évidemment dans le Sud, mais aussi dans nos pays, dans le Nord, en Occident, comme on dit. Et donc, les gens cherchent, comme toujours, une alternative à un système qui fait faillite, qui échoue. Or, il n'y en a plus. Je dis plus parce que pendant longtemps, pendant des décennies, il y a eu
la
le communisme.
Gauche, oui, voilà.
Il y a eu les pays de l'Est. Bon, on peut penser que ça n'était pas une alternative réelle, ou penser que ça en était une, peu importe. De toute façon, il n'y a plus ça en magasin. Ça n'existe plus. Enfin, si on met à part la Corée du Nord, mais enfin, c'est quand même un reste pas particulièrement reluisant du communisme. Donc, c'est normal que les gens cherchent une autre alternative que celle-là, qui n'existe plus pour l'instant. Et comme les alternatives, aujourd'hui, elles ne sont pas à gauche... Et ce n'est pas seulement vrai en France, c'est vrai oui. En Europe, c'est vrai dans le monde en général. Eh bien, les gens vont les chercher à droite ou à l'extrême droite. Et on a cette poussée nationaliste, on a cette poussée populiste, on a cette poussée des extrêmes droites. Et je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est-à-dire la crise des alternatives, elle est absolument nodale, elle est absolument essentielle pour comprendre tous ces phénomènes. Sinon, on perd de vue le déclencheur même, ce qui pousse... les gens dans ce sens. J'en profite pour dire que nationalisme, c'est évidemment pas un gros mot. C'est le nationalisme.
Oui, le FLN.
Il y a eu beaucoup de choses très bien dans le nationalisme. On a eu la libération d'un très grand nombre de pays du tiers-monde.
C'était presque nécessaire à un moment donné. Ouais,
c'est voilà, c'est un autre type de nationalisme.
Ouais. La résistance française était une résistance nationale.
Et si on prend la chose à l'envers, les pays qui ont fait tardivement. Leur apparition comme État-nation, je pense à l'Italie ou je pense à l'Allemagne, on sait quelles conséquences ça a eu. Ce n'est pas par hasard que le fascisme ou le nazisme sont apparus et se sont développés, pour le plus grand malheur de l'Europe, dans ces deux pays-là, dont la construction nationale était très tardive. Donc vous voyez, il faut à la fois mesurer les problèmes d'alternative, il faut aussi mesurer que ce dont nous parlons, ça n'est pas, je le répète, un gros mot. C'est un phénomène complexe qui a eu des aspects très positifs et négatifs quand il n'existait pas.
Et l'essence d'une nation est-elle toujours liée à son histoire religieuse ? Est-ce que c'est...
Non. Enfin, on ne peut pas nier que dans l'histoire des pays, la religion a joué un rôle. Donc c'est difficile de prendre un scalpel et de faire la part de ce qui relève du religieux et du non-religieux. Sachant qu'en plus, les religions ont très souvent, à travers la planète, absorbé les traditions locales qui avaient préexisté à ces religions. Je vais donner deux exemples. Noël, on sait bien que c'est la fête du solstice, qui était une fête païenne en Europe. Eh bien, c'est devenu Noël. On a superposé une fête chrétienne à une fête bien établie. Ou inversement, l'islam a repris des fêtes et des pratiques, par exemple le pèlerinage à la Mecque et la pierre noire à la Kaaba, qui existaient avant l'apparition de l'islam. Donc on superpose des choses qu'on sait respectées par la population au bénéfice de la nouvelle religion. De la même façon, bien entendu, le sentiment national ne peut pas faire abstraction du cadre dans lequel il se développe. Comme la religion est très prégnante, ça en fait partie.
Oui, Dominique Vidal.
Oui, je veux dire, c'est quand même... Nous sommes très intelligents tous et on veut comprendre le monde. On ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses où on ne comprend pas. Je vous donne un exemple. S'il y a un pays où la religion joue un rôle absolument historique et puis sur une très longue période, c'est la Pologne. L'Église catholique a joué un rôle... C'était presque l'État quand il n'y avait plus d'État, quoi. Alors on nous dit, bah oui, c'est normal, puisque... Mais allez voir juste à côté... La République tchèque, qui est un pays athée, très largement athée, dans des proportions tout à fait singulières, où l'Église n'a aucun poids politique, contrairement à la Slovaquie d'ailleurs, où elle en a eu, y compris pendant la guerre, avec un dignitaire de l'Église qui était le principal collabo de l'occupant nazi. Hein, donc. Mais voilà, ce mystère du fait qu'on est à peu de distance... Deux pays, l'un où la religion joue un rôle majeur, l'autre où elle joue aucun rôle, alors que dans les deux cas, c'est des pays qui n'ont pas existé tout le temps, qui ont mis du mal à se libérer de leurs occupants réciproques, parce que la Tchéquie aussi, ça n'existait pas, ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Donc on voit bien quand même, certainement qu'un spécialiste tchèque ou un spécialiste polonais, vous les inviteriez, ils auraient certainement des tas de choses à vous dire. Mais quand même, on peut difficilement tout expliquer. Il y a aussi des réalités populaires qui sont différentes d'un pays à l'autre, qui font que la religion occupe une place importante ou non, selon les États.
Olivier Dallage.
Oui, en écoutant Dominique, je me fais la réflexion qu'il y a un chapitre qu'on aurait pu introduire dans le livre qui n'y est pas, qui concerne l'Irlande. Bon, en Irlande, catholique et républicain, c'est synonyme. Parce qu'en fait, il y avait des catholiques irlandais, pour des raisons historiques, ils étaient catholiques. Il y avait des... Alors, protestants, c'est pas le mot, parce que c'est très compliqué. Des anglicans, je suis pas sûr que protestantisme... Bon, peu importe. Mais qui n'étaient pas catholiques, ou n'étaient plus catholiques en tout cas, qui représentaient l'Angleterre. Et ces anglicans sont allés s'installer dans une partie de l'Irlande, et les autres se sont sentis occupés. Et donc, il y a eu une lutte nationale qui a pris une forme religieuse. Mais à la base, je crois que c'est la question nationale qui prime. Mais on ne peut pas nier que la part religieuse soit essentielle. Et le rôle que, par exemple, l'Église catholique a joué de par le monde dans le soutien à la cause des républicains irlandais est évidente. Donc, encore une fois, on essaie d'analyser, comme disait Dominique, en faisant la part des facteurs. Mais il y a des moments où la glu est telle que c'est difficile de faire la part des choses.
Mais c'est ce qu'on ressent aussi quand on lit le livre... L'essor des nationalismes, c'est que les choses sont très complexes et sont pas si simples. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction apparente entre nationalisme et religion ? La religion véhiculant plutôt l'idée d'une transnationalité.
Ça dépend laquelle ?
Oui, en Inde, par exemple, c'est pas le cas.
Voilà, c'est-à-dire que l'islam, le christianisme sont des religions qui se veulent universelles. Le judaïsme, un peu moins, mais ça, je laisserai Dominique en parler. Mais par exemple, les religions qui sont nées dans le sous-continent indien, alors c'est compliqué aussi parce que le bouddhisme a pris une valeur universelle. Il y a des hindous un peu partout sur la planète, mais les nationalistes hindous considèrent que c'est le, il y a pas, théoriquement, il n'y a pas de conversion en hindouisme. Bon, cela dit, c'est un petit peu comme avec le judaïsme, il y en a quand même. Mais ce sont des religions autochtones qui sont nées sur le sol de ce qui était l'Inde, ce qui est, disons, l'Asie du Sud, le sous-continent indien. Et voilà. Et donc les nationalistes hindous disent, nous, nous sommes les vrais Indiens. Et bah, les autres sont des Indiens de deuxième classe ou pas des Indiens du tout. Et en tout cas, ils doivent respecter la majorité parce que sinon, ils n'ont pas leur place ici. Et donc, ça n'est pas universel, même si les valeurs de l'hindouisme peuvent être universelles. Donc, c'est plus compliqué que ça.
Tu parles de l'Inde ou d'Israël, là? Parce que je croyais que tu parlais d'Israël. Les autres doivent...
Et quelles sont les différences entre, alors je reviens un petit peu en arrière quand même, mais pour préciser encore, entre nationalisme religieux et théocratie?
Théocratie, c'est un mode de gouvernement, c'est-à-dire que le pouvoir qui gère le pays, qui dirige le pays, invoque une légitimité religieuse et applique des normes religieuses. Après, ça peut être fait d'une manière...
Non excluante, c'est ça? Alors que dans le nationalisme religieux, on a cette notion...
Ça, je dirais pas non excluante, mais ça peut être fait d'une manière très laïque, au sens où ça peut être très bureaucratique. C'est la norme et on l'applique. Il n'y a pas l'idée... Encore une fois, dans le nationalisme, pour moi, peut-être que ma définition n'est pas la bonne, mais il y a une idée de mouvement. Le nationalisme porte un mouvement très fort, une croyance très forte, et qui veut s'imposer, soit de manière défensive, soit de manière offensive. Théocratie, ça peut être un régime un petit peu encrouté qui applique des règles d'origine religieuse, mais sans avoir un projet politique d'exportation ou autre.
Alors, à contrario, c'est contenu dans le nationalisme religieux, ce mouvement d'exportation de cette idéologie-là.
D'exportation, en tout cas d'imposition, en admettant que ceux qui ne relèvent pas de cette religion, pour beaucoup de ces nationalismes, n'ont pas vocation à y rentrer.
Je voudrais juste souligner ce qu'a dit Olivier. Quand on parle de théocratie, on parle d'un mode de gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme, quand bien même il serait religieux. Ça veut dire que les religieux, l'Église ou les Églises, sont au pouvoir et applique des lois qui sont inspirées directement des lois religieuses. Même Israël, à mon avis, n'est pas une théocratie. C'est un lieu où, effectivement, les dirigeants utilisent la religion, pour une part, cèdent aux pressions des religieux, peut-être on y viendra tout à l'heure, mais ça n'est pas un lieu où la religion est au pouvoir. Le pouvoir israélien est un pouvoir laïque, pour l'essentiel. On ne sache pas que Benjamin Netanyahou soit très religieux. On ne sache pas même que Ariel Sharon, avant lui, était très religieux. Et si on remonte au fondateur, David Ben-Gourion, quand on lit ses œuvres, on peut comprendre qu'il était athée. Agnostique, au moins.
Dans une théocratie, la religion n'est pas au pouvoir.
Enfin, le pouvoir est exercé au nom des normes de la religion. Que les religieux soient eux-mêmes au pouvoir ou qu'ils soient juste derrière... Voilà. Mais par exemple, je vais peut-être vous surprendre, mais l'Iran, qui est présenté comme l'archétype de la théocratie moderne, bien sûr, il y a le système du Velayat-e Faqih avec l'ayatollah Khamenei, le guide qui a succédé à Khomeini, et le président de la République actuelle se trouve être lui-même un mollah. Je ne connais pas son grade exactement. Ça n'a pas été le cas de son prédécesseur, mais bon. Mais quand on regarde la société iranienne, moi j'avais été très frappé, je m'étais trouvé en Iran en plein Ramadan. Les restaurants étaient ouverts. Alors, j'avais essayé de me faire expliquer la chose, et on me dit, oui, mais Téhéran, c'est une grande ville. Donc, pour aller de chez soi à son travail, il faut voyager. Et donc, si on fait plus de 30 km dans la journée, on est considéré comme un voyageur, et donc on peut manger. Et il y avait une fatwa de Khomeini qui avait entériné la chose, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas changer une pratique qui était tellement ancrée dans la société que s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas fait cette fatwa, il aurait fallu admettre qu'il n'était pas obéi. Et moi, je n'ai jamais entendu le son du muezzin à Téhéran, tout simplement parce que les voisins coupent les fils électriques des haut-parleurs. pour ne pas être dérangé. Donc voilà, ça limite un petit peu, mais sur le papier, sur un certain nombre de règles, on ne peut pas nier que c'est une théocratie. Dans la pratique de tous les jours, c'est beaucoup plus souple.
Mais ça c'est arrange. Une des rares théocraties. Il y en a très peu à l'échelle mondiale. Pour une raison simple, c'est que la modernité ne va pas avec la théocratie, parce que c'est un mode quand même de gestion des peuples extrêmement rigoureux, avec une volonté d'imposer des lois. En général, les peuples s'en débarrassent d'une manière ou d'une autre.
Ou ils trichent. Ou ils trichent.
Oui, triche. Oui, c'est ce que je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être violent, ça peut être aussi de s'arranger avec les règles. J'ai un collègue qui revient d'Iran qui m'a dit que le voile était quelque chose qui était de plus en plus traité à la légère. C'est-à-dire, on a un tout petit voile, les cheveux dépassent. Voilà. Je crois que les théocraties... L'Iran, c'est même un cas unique peut-être de théocratie qui a duré très longtemps, relativement.
Alors, après, ça dépend de la définition qu'on donne de l'Arabie Saoudite.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Peut-être, comme on est sur les questions de vocabulaire, vous vouliez faire une précision sur le terme populisme en préparant l'émission.
Que c'est un terme que vous revendiquez, enfin que vous utilisez.
Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans le domaine des sciences exactes. Donc, on peut utiliser des termes différents les uns et les autres. L'important, c'est d'être sûr que tout le monde comprend bien ce qu'on dit. Donc, moi, j'utilise un peu, mais pas beaucoup, le terme de populisme, qui, c'est vrai, englobe des choses très très différentes. Mais je reconnais que c'est assez pratique quelquefois pour dépeindre un phénomène, une tendance générale. Après, quand on va plus loin dans le détail, il faut donner d'autres définitions. Nationalisme, on s'est un petit peu attardé sur ce que c'était. Mais par exemple, je vais prendre la question du patriotisme. Est-ce que le nationalisme et le patriotisme, c'est la même chose? Est-ce que c'est l'opposé? Est-ce qu'il y a beaucoup, un peu, ou moyennement, de patriotisme à l'intérieur du nationalisme? Est-ce que le nationalisme, c'est mal, et le patriotisme, ce serait bien? En réalité, ça dépend très très largement de qui s'exprime, de ce qu'il veut dire. Et donc, encore une fois, l'important, c'est que l'interlocuteur, ou l'auditeur, ou la personne à qui on parle, comprenne bien le sens de ce qu'on veut dire, qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, moi, je me cale plutôt sur ceux qui pensent que le patriotisme et le nationalisme, il y a pour prendre une comparaison mathématique, il y a une intersection, mais ça ne recouvre pas exactement la même chose. Mais encore une fois, à travers l'histoire, des acteurs politiques, des poètes, des écrivains, des militants ont pu employer un terme à la place de l'autre, et ce serait un petit peu stupide de s'accrocher à une définition pour ne pas tenir compte de ce qu'ils ont voulu dire.
D'ailleurs, dans le livre, je vous donne la parole tout de suite,
oui,
Dominique. Dans le livre, vous faites la définition du nationalisme comme étant une idéologie fondée sur l'idée de nation, alors que le patriotisme serait fondé sur le territoire. C'est un peu ce que j'ai retenu.
Oui, après avoir lu différents théoriciens, etc., c'est plutôt celle-là que j'ai retenue, mais je comprendrais très bien que d'autres aient une lecture différente. Et encore une fois, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on sache ce qu'on veut dire et qu'il n'y ait pas de malentendu sur les définitions, parce qu'on aborde, comme on l'a dit plein de fois depuis le début de cette émission, un terrain, premièrement, qui n'est pas très défriché, c'est relativement nouveau tout ça, et deuxièmement, où les mots mal compris peuvent très vite nous emmener loin de ce qui est important. Voilà.
Je voulais dire, on a fait il y a quelques mois avec Bertrand Badi une publication de l'État du monde, qui paraît chaque année en septembre, sur le retour des populismes. Donc on s'est évidemment posé la question que vous nous posiez tout à l'heure. Moi, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un phénomène, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire, il y a Salvini, il y a la poussée du PiS en Pologne, qui est au pouvoir maintenant, il y a Orban en Hongrie, il y a Poutine, il y a Erdogan, il y a Modi, enfin, il y a un phénomène global. Alors, ce phénomène est très divers. Si on voulait en donner une définition unique, on n'y arriverait pas. Il est divers d'abord historiquement, parce que les narodniki du 19e siècle, c'est pas comme le fascisme et le nazisme, et c'est pas comme Mélenchon aujourd'hui qui se revendique du populisme. Donc il y a une diversité très nette. Il y a aussi, et c'est ça qui quand même doit être dit, une diversité nord-sud. C'est-à-dire le populisme au nord, c'est autre chose que le populisme au sud.
C'est un peu l'argument des gens qui évacuent ce terme de populisme, c'est-à-dire que c'est un peu un fourre-tout et qu'il amène de la confusion à la confusion.
Mais comment on fait avec le phénomène qui, lui, existe ? et avec des points communs, parce qu'il y a des différences, j'ai l'honnêteté de le dire, mais il y a aussi des points communs, il faut le dire quand même, le culte du chef, au point que certains de ces mouvements portent le nom du chef, le nasserisme, le péronisme, etc. Deuxièmement, le mépris de la démocratie, l'idée que la démocratie, ce n'est pas parlementaire, représentative et tout, ce n'est pas une solution. Il y a l'exaltation du peuple contre les élites. Enfin bref, je ne vais pas faire une liste trop longue, mais on a vraiment beaucoup de points communs. Donc ce que je crois, premièrement, il faut utiliser le terme parce qu'on a ce phénomène et qu'un phénomène qui n'a pas de nom, c'est très inquiétant intellectuellement. Deuxièmement, il faut dire que c'est plus clair dans le détail que ça n'est une pensée, ça n'est pas une doctrine. C'est pas parce qu'il y a isme, comme communisme ou fascisme ou catholicisme ou judaïsme, que c'est une doctrine globale. Non, c'est des expériences similaires ou proches les unes des autres qui méritent d'être comprises pour être y compris combattues.
C'est pour ça que je trouve utile, dans ce domaine mal balisé et où l'incompréhension est très rapide, de dire non seulement ce qu'on pense que la définition comprend, mais aussi ce qu'elle exclut, ce que c'est et ce que ça n'est pas. Et c'est avec ces échanges-là qu'on verra les intersections qui permettront... Et il est vrai que même si le terme populisme est très général et un peu vague, on voit bien toute une série de courants politiques qui ne relèvent pas du populisme. Donc, en ce sens, ça apporte une clarification. Après, quand on rentre à l'intérieur de l'enveloppe, il faut ouvrir les enveloppes qui s'y trouvent.
Le nationalisme religieux passe-t-il systématiquement par l'exclusion des minorités ? Est-ce que c'est une composante ?
Oui. Ah oui. Sans ça, en fait, on a dit qu'on resterait nuancé, complexe, etc. Je vais faire exactement le contraire. Quelques instants. C'est-à-dire que si je mets dans une passoire tous les ingrédients du nationalisme religieux et que je filtre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques ingrédients, qu'est-ce que je vais trouver ? Il y a toute chance que je trouve une communauté ultra-majoritaire qui peut atteindre 80% de la population concernée, qui se sent menacée par là où les minorités et qui a besoin de ce repli identitaire pour se rassurer et donc qui soit va expulser ou tenter de le faire ces minorités, soit de les assujettir à un statut de minorité sans droit ou avec des droits limités, soit de les opprimer en les conservant sur place mais avec aucun droit du tout. Et ça, cette grille un peu simpliste, très franchement, je trouve qu'elle s'applique pratiquement partout. Et en fait, je dis pratiquement partout. Dans tous les cas qu'on a étudiés, en tout cas dans le livre, on retrouve ce point commun, c'est-à-dire un groupe majoritaire se sentant menacé par là où les minorités.
Vous pourriez développer ce que dit Olivier en prenant l'exemple de la France, où quand même le groupe chrétien est largement majoritaire. Je ne parle pas de pratiques religieuses, je parle de...
Culturellement.
De référence... Et Dieu sait qu'il se sent menacé, c'est le racisme anti-blanc, c'est le grand renversement, on va avoir une majorité de musulmans, toutes choses qui sont parfaitement crétines. Enfin, il suffit d'avoir un tout petit peu de culture démographique pour savoir que tout ça ne tient pas debout. Et ça peut avoir des effets de caractère totalitaire, pour prendre un mot un peu fort. Quand on prétend remettre en cause le mariage gay, par exemple... on est quand même devant quelque chose de grave dans la République française, y compris quand ce sont, je le signale au passage, des Gilets jaunes qui, à la faveur de la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne, dans la liste des référendums possibles, incluent le mariage gay, qui est adopté, qui fait l'objet d'une loi en France, inclut la peine de mort, qui a été abolie. C'est-à-dire, vous voyez, on a quand même un risque de dérapage dès qu'on a la volonté d'une minorité, plutôt d'une majorité qui se sent minoritaire, bizarrement, il y a des risques de dérapage importants.
Alors justement, vous parlez d'autoritarisme, M. Vidal. Parmi les régimes nationalistes religieux que vous avez identifiés dans votre ouvrage, Olivier Dallage, lesquels sont susceptibles, d'après vous, de dériver vers l'autoritarisme, voire vers le fascisme ?
Bon, fascisme, c'est un mot que je garderai parce que là aussi, c'est des questions de définition, mais c'est très connoté historiquement. Il y a des traits qui lui sont propres. Je ne dirais pas que les mouvements ou les partis ou les gouvernements qu'on évoque dans le livre sont nombreux à relever de ce qui pourrait être qualifié de fascisme. En revanche, autoritaire, bah, tous, sans exception, parce que c'est cette tendance-là. Et quelquefois, pour des raisons que ces protagonistes considèrent comme extrêmement élevées. Enfin, je voudrais pas qu'on pense que tous ces croyants du nationalisme religieux sont des gens cyniques qui ne croient pas, qui cherchent simplement à assurer leur intérêt. Ça existe aussi, mais non, ils croient vraiment, ils sont convaincus qu'ils vont être dominés par la minorité, que les pratiques culturelles des minorités vont s'imposer à la majorité, qu'en fait, on fait trop de concessions à ces minorités et que ça empêche la majorité de vivre comme elle le veut, etc. etc. Donc ça induit des comportements autoritaires et profondément inégalitaires au détriment de ces minorités.
C'est très répandu quand même, si oui, on fait un tour du monde.
C'est très très répandu.
Alors on va revenir sur cette question de l'autoritarisme et éventuellement de la fascisation avec le cas d'Israël après la pause musicale.
Une petite parenthèse.
Petite parenthèse musicale avec le groupe palestinien Katibé Hamsé et le morceau Irtejal Falestini.
عقود تمر وعم بدفع مصاري ببلاد فيها بعمرش وهي بتعمرش فيني وليد جملاطي يهدينا مقابر أدفن فيها سلاحة أدفن حوي كفلسطيني أمل عودي بمقبرة البلاط لقيني توطيني يدق عباب تخافش رح تسمع جوابي لا للتوطين ولو انه فيش حل تاني الاسم عائد تل الربيع فيش تل أبيب فكرك منتقسم إذا غيرت الأسامي مانو 40 67 كلها فلسطين حامل صوت سلاح طخ نجوم بالليل قنابل تبت اعلام بارض بلادي من الاخضر للاسود راب الليل يهاجم الاعادي من الاحمر للابيض بوثيقه لجوء عرفتني حليفه اليهود فال هوي بطالب شباب المخيم من الضغط الهجره بتطارد الجيوش تقتحم مخيمات وفيش حدا يعارض تل الزعتر نبطيه فتحت العيون شاكر الزريع القصف العشوائي ضحايا بالجمله عشره مقابل كلمه بالعمل للتملك للوراثي وجعت اللي راسي حقوق اسمي من القانون والحق ملكي مش تقسيط مع فوايد تركني هون قاعد ناطر حلم الوعد بالاخوه توحيد القضيه حججك سخيفه وغبيه مش عم بتكرمني ولا حتى عم بترضي حججك سخيفه وغبيه مولوتوف مقدسي مقدسي
اسمع عورقة بيضة ببدأ رتب الحروف اتعلم امسك كلام اجمع الجمل ببدأ اتكلم رقت الحروف اجمع القوى فحرك الجمل ادخل الوطن بعقل اتمنى احلم من اشتياق للوطن عايش داخل كابوس بحاضر الزمن انا بوحي الواقع ملموس كأني بحلم بالعدو بيسرق اراضي والشعب بيقاوم الفقر والقزم بالتراضي بحلم القدس اتهولت والشعب لب يهودي والزمن فرق عرب صرت ما اعرفش حدودي كأني بحلم انه الاستيطان بيكبر والأرض كانت إلا صارت للعدو استوطن بأرضي والفكر تحول غربي بناخد الغلط نرمي المفيد العربي أنا حلمي إني أصحى يبقى الحلم كابوس وتبقى أرضي إلا ونفتخر بالقدس عروس
تعدني الأيام القادمات أو الذاهبات لا يؤرقني شيء فأنا أشكر الله الذي خلقني قويا كرمح يعاند الريح ولا يكسر وأشكر الله الذي خلقني قويا كرمح يعاند الريح ولا يكسر فأنا سيد قراراتي وأنا سيد اختياراتي بيدي أنتقي موتي وبيدي أختار حياتي وأشكر الله الذي خلقني قويا كرمح يعاند الريح ولا يكسر وأشكر الله الذي خلقني ثابتا كرمح يعاند الريح ولا يكسر
واحد بخمسة
عبد الرحمن جاسم زياد على البيز
مولوتوف
ليسم جلال
الفلوس أسلوب على
البيز
مقدسي
يابا
أيو كله هون
sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 ou en streaming www.rfpp.net. Nous sommes dans le cycle Pause Commune que vous propose FPP depuis début janvier et dans une émission consacrée au nationalisme religieux au pluriel avec Olivier Dallage et avec Dominique Vidal et Julie, ma compère. Et nous en étions restés à un panorama sur le et les nationalismes religieux. Et nous allons entrer maintenant un peu préciser sur le cas israélien, faire un zoom, faire une pause sur la question israélienne. Je te laisse le micro, Julie.
Alors, on va revenir sur l'inquiétante radicalisation de la coalition de droite et d'extrême droite qui dirige Israël depuis 2015. Avec vous, surtout, Dominique Vidal, quel est le poids politique des nationalistes religieux en Israël et quel parti l'incarne ?
Je voudrais, si vous m'autorisez à bousculer un tout petit
Bien
peu
sûr.
Votre questionnement, faire un tout petit retour en arrière. Parce qu'il y a un cas très particulier qui est celui du sionisme, qui entretient avec la religion des rapports schizophréniques. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un mouvement laïque qui, dans la tête de Theodor Herzl, son fondateur, devait créer un État laïque. Herzl disait même que les rabbins, il fallait les maintenir, les cantonner, disait-il, dans leur temple, qui, en plus, en voulait beaucoup à la religion, qui n'avait pas fait ce qu'il fallait pour défendre les juifs persécutés à travers l'histoire, voire même avait justifié leur persécution. Je vous rappelle qu'un grand rabbin, qui est mort aujourd'hui, avait expliqué que les juifs qui avaient été gazés par les nazis avaient été parce qu'ils avaient péché.
Qu'ils expiaient.
Ils expiaient leur péché. Donc il y a une définition du sionisme, une autodéfinition qui est extrêmement hostile, voire agressive à l'égard de la religion. Mais d'un autre côté, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, il y a absolument besoin, pas de la religion en soi, mais de la Bible. Parce que la seule justification de la création d'un État juif à cet endroit-là, c'est le fait que Dieu ait donné cette terre à Abraham et à sa descendance. Et mes amis en Israël, ils sont plutôt progressistes en général, ont une formule que je trouve très drôle. Ils disent, oui, d'ailleurs, même les athées pensent que Dieu a donné cette terre au peuple juif pour qu'il y crée son État. Donc, si vous voulez, c'est une situation assez complexe. Donc, il y a eu beaucoup d'engueulades, en gros, pour aller vite, entre sionistes et religieux. Ils se sont rabibochés, si je peux dire, en 1947, où Ben Gourion savait que pour créer l'État d'Israël, il fallait s'arranger avec les religieux. Il y a eu ce que le rabbin Leibovitz avait appelé une double prostitution. C'est l'accord dit de statu quo, ça veut dire que l'État a obtenu l'intégration des partis religieux dans sa construction. Donc les religieux se sont prostitués d'une certaine manière, puisque eux disaient non, il ne peut pas y avoir d'État juif tant que le Messie n'est pas venu. Et à ma connaissance, enfin, sauf si vous avez des nouvelles plus fraîches, il n'est pas venu. Et l'État existe. Donc il y a cette prostitution-là, mais il y a celle de l'État qui a accepté en échange de donner des pouvoirs exceptionnels aux rabbins. C'est-à-dire, ils ont les lois religieuses qui sont appliquées à tout le monde, que ce soit la cacheroute, les lois alimentaires, que ce soit le repos du Shabbat, mais ils ont aussi un système d'enseignement autonome financé par l'État, de même que les rabbins sont payés par l'État.
Ça ne s'est pas remis en question
Non, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le statu quo. Et plus ça a été, plus les rabbins ont obtenu de concessions de l'État. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où la droite est arrivée au pouvoir en 1977, elle ne pouvait pas former de gouvernement si elle n'avait pas les partis religieux dans sa coalition. Et donc, ils ont fait payer chaque participation.
Les socialistes sont revenus au pouvoir, ils ont fait pareil. Hein.
Voilà, oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de culture du fait de payer aux religieux, aux rabbins, le fait qu'ils participent à une coalition et qu'ils la soutiennent. Et cette habitude-là, détestable évidemment pour beaucoup d'Israéliens, elle a été d'autant plus forte que la colonisation, à partir de 1967, a commencé à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Parce que là, ce sont les mouvements religieux qui ont été au cœur du phénomène de colonisation. Aussi bien, je répète, à Jérusalem qu'en Cisjordanie. Bien sûr que les gouvernements, y compris travaillistes, ont joué leur rôle, mais quand même, il y a eu un grand mouvement populaire qui s'appelait Gush Emunim, le bloc de la foi, qui a entraîné des dizaines et des dizaines de milliers d'Israéliens sur les terres des Palestiniens pour les coloniser. Donc on a aujourd'hui, si vous voulez, une situation extrêmement préoccupante. Là encore, mes amis, quand ils sont drôles, disent qu'on va effectivement avoir deux États. Un État juif laïque à Tel Aviv et un État juif religieux à Jérusalem, ce qui est une manière évidemment d'évacuer la question de l'État palestinien. Mais ça n'est pas complètement idiot, c'est-à-dire, c'est ça que je voudrais dire pour résumer, aujourd'hui, on a une très grande majorité d'Israéliens qui sont laïcs et qui n'ont pas de rapport étroit avec la religion. Mais le petit nombre, moins de 10%, d'ultra-orthodoxes, vos auditeurs les voient parfois sur les photos, c'est ceux qui sont habillés en noir avec des chapeaux de fourrure, avec des papillotes, ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, les haredim, ceux qui craignent Dieu, ils pèsent très lourd. Et je vous donne un exemple très précis. Le gouvernement israélien, malgré tout ce qu'il voulait, n'a toujours pas réussi à faire faire le service militaire aux jeunes issus de la communauté ultra-orthodoxe. Et quand on y touche, on a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de religieux qui défilent dans les rues.
Et on n'a pas essayé récemment de toucher aux écoles, par exemple, de ces ultra-orthodoxes?
Pas du
de
tout. Couper, pas du tout. On est vraiment dans une situation, encore une fois, ça n'est pas une théocratie.
De cohabitation.
Mais une situation où la religion pèse et pèse lourdement sur les épaules d'une majorité laïque. Et c'est sans doute un des points qui peut faire débat aujourd'hui et qui peut mobiliser une partie de l'opinion israélienne. De la même manière que les questions économiques et sociales peuvent mobiliser, mais je dirais pas la question palestinienne. C'est-à-dire on est dans une espèce de statu quo que les gens ont l'habitude de considérer comme intangible. Et donc on n'a plus vraiment aujourd'hui de mobilisation de l'opinion pour une solution à deux États.
Alors justement, sur la problématique des deux États, il y a tout un arsenal juridique qui s'est développé en Israël par rapport à ce projet colonial. Est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus?
Il s'est passé, si vous voulez, mais ça dépasse un peu le cadre du livre, il s'est passé quelque chose d'extrêmement préoccupant en 2015. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, la droite et l'extrême droite se sont retrouvés seuls au pouvoir. Et se sont lancés effectivement dans une radicalisation, à certains égards une fascisation, vous le disiez tout à l'heure, qui mérite d'être analysée, ça va vite. Hein. Premièrement, c'est plus le but de la colonisation, qui continue évidemment, 700 000 colons aujourd'hui, mais l'annexion. Il y a une loi qui a été votée par la Knesset le 6 février 2017, qui est une loi qui permet l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie. Deuxièmement, une loi fondamentale, une loi constitutionnelle, il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des lois qui s'accumulent les unes les autres. L'État d'Israël n'est plus un État juif et démocratique, comme il était défini autrefois. Bon, c'était un oxymore, mais il y avait au moins le mot démocratie. On a aujourd'hui l'État-nation du peuple juif. Et l'article 1er dit « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination nationale en Israël ». On est dans les exclusions, puisque ça veut dire que les autres ne l'ont pas, ce droit, si c'est seulement le peuple juif. Et c'est complètement contraire à la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948, qui insistait au contraire sur l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur religion, leur race, disait-on à l'époque, etc. Donc, deux éléments importants. Troisième élément, toute une série de lois qui sont des lois liberticides. Je ne vais pas en faire la liste, l'interdiction du boycott, les lois qui pèsent sur les ONG, qui limitent leurs possibilités d'action. Et puis une loi, alors qui est fantastique, parce que même en Corée du Nord, on n'a pas fait ça, elle permet à 90 députés sur 120 d'exclure les autres du Parlement. Imaginez, La République En Marche réunit son groupe parlementaire à l'Assemblée, pour faire comprendre à vos auditeurs, et ils décident qu'on va virer du Parlement les députés de la France Insoumise, les députés communistes, les députés socialistes, les députés écologistes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, on ne peut plus parler tout à fait d'un pays démocratique, enfin, quand on a ce type de loi. Et puis le dernier point, le quatrième point, qui me paraît très important, en tout cas personnellement je le ressens comme très important, c'est la tournée des populistes qui a été entreprise par Benjamin Netanyahou, qui flirte avec Viktor Orban, lequel Orban, Premier ministre hongrois, fait l'apologie du Pétain hongrois, le régent Horthy, qui a quand même fait exterminer 430 000 juifs hongrois. Ça, pas un mot dans les discours de Netanyahou. Il a fait la même chose, un flirt du même type, avec Kaczynski en Pologne, lequel Kaczynski a fait voter une loi par la Diète qui interdit de parler de la collaboration polonaise avec les nazis. Le fait est que c'est une des collaborations les plus importantes dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec celle des collaborateurs des pays baltes. Il a été invité Sébastien Kurz, un charmant jeune homme, je vous le recommande. Il a la trentaine, il est très sémillant. La seule chose qui n'a pas été précisée par Netanyahou, c'est que Kurz a 6 ministres néo-nazis dans son gouvernement, les ministres du parti de Jörg Haider.
Et ça passe dans l'opinion publique israélienne.
Ça passe, oui et non, parce qu'en même temps, c'est pas très connu. C'est-à-dire, nous, on le sait beaucoup plus que les Israéliens ne le savent. Ils ont d'autres sujets de préoccupation. Le système médiatique est tel en Israël qu'il peut créer une espèce de bulle dans laquelle on s'occupe plus de Gaza, de l'Iran, des menaces permanentes sur l'existence d'Israël que de ce que fait le Premier ministre. C'est sûr que dans les catégories âgées, des Israéliens, des Juifs israéliens, notamment des Juifs européens, ashkénazes, comme on dit, qui savent, quand on parle de Pologne, de Hongrie ou d'Autriche, de quoi on parle, là, ça a créé quand même du trouble, quoi. Donc, si je résume, on a vraiment un phénomène de radicalisation. Et toute la question des prochaines élections, le 9 avril, c'est de savoir si, ou non, cette radicalisation, cette fascisation à certains égards, sera validée par les électeurs ou non.
Alors justement, pour rester sur les liens avec l'extrême droite européenne, l'islamophobie constitue quand même une structure partagée de tous ces nationalismes européens. Est-ce que c'est partagé de la même manière par le nationalisme
israélien ? Oui, c'est évidemment un des éléments de l'alliance entre le Likoud, l'extrême droite israélienne, et les partis populistes. Mais il y a quelque chose de plus malin dans la manière dont le deal fonctionne. Parce qu'il y a un deal. Hein. Du côté israélien, c'est clair, d'ailleurs Netanyahou l'a dit, ces partis, ces pouvoirs populistes, que ce soit l'Autriche, que ce soit la Hongrie, que ce soit la Pologne, que ce soit l'Italie aujourd'hui, ces pouvoirs-là sont une manière pour Netanyahou de mettre les mains dans l'Union européenne et de peser sur la politique européenne à l'égard du conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas besoin de beaucoup peser parce qu'il n'y a pas beaucoup de politique de l'Union européenne, mais quand même, il a aujourd'hui un groupe de pays, d'États, membres de l'Union européenne, qu'il peut manipuler dans les débats qui sont ceux de l'UE. Et de leur côté, c'est évidemment d'un cynisme extraordinaire. Ils l'ont dit, certains l'ont dit en toutes lettres. Ben nous, on n'est pas antisémites puisqu'on est pro-israéliens. C'est-à-dire le seul fait d'avoir de bonnes relations avec les dirigeants israéliens est la preuve qu'ils peuvent arborer qu'ils ne sont pas antisémites. Ça ne les empêche pas de l'être.
C'est le sujet un peu de votre dernier livre ?
Non, oui, enfin, si vous voulez, d'une certaine manière. Mon livre porte surtout sur la manière dont Emmanuel Macron a traité de la question de l'antisionisme en l'amalgamant
à
l'antisémitisme. On peut évidemment être antisioniste ou ne pas l'être, ou voire être hostile à cette idée. On ne peut pas l'amalgamer avec l'antisémitisme. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que depuis que Herzl a inventé le projet sioniste en 1896, ce projet a été repoussé jusqu'en 1939 par une immense majorité de juifs, de l'ordre de 95%. Donc il faudrait croire que ces juifs-là sont antisémites. Ça n'a strictement aucun sens. Et puis quand on prend les vagues d'immigration vers Israël, vous prenez la vague des survivants de la Shoah, qui n'avaient pas ailleurs où aller, puisque les Américains refusaient les visas, et qui ne pouvaient pas rentrer en Pologne, parce que, alors je n'ai pas le droit de le dire à cause de la loi de Kaczynski, mais comme je suis en France, je vais le dire quand même, il faut savoir que les pogroms anti-juifs en Pologne, ils ont continué jusqu'en 1954. Donc évidemment, les survivants n'avaient pas envie d'y retourner, l'expérience faite. Donc vous avez cette première vague qui n'est pas une vague sioniste, donc c'est une vague de gens qui choisissent d'aller là où ils peuvent aller. Vous avez ensuite les juifs arabes, à partir de 1948, qui sont soit chassés par les dirigeants des pays arabes, soit recrutés par les dirigeants israéliens. Bon, on imagine bien que des gens qui sont à la fois juifs et arabes, ils n'étaient pas les bienvenus en Europe. Donc le seul endroit où ils pouvaient aller, c'était l'État d'Israël, naissant. Et puis vous avez la troisième grande vague, celle des juifs soviétiques, qui arrive avec un accord de Gorbatchev avec les dirigeants israéliens. 1,5 million, hein, quand même, c'est pas rien. D'abord, la majorité ne sont pas juifs. Ils profitent d'une loi qui leur permet de quitter légalement l'Union soviétique en se disant juifs. Et puis ensuite, ils arrivent pour aller continuer leur voyage aux États-Unis, mais c'est pas possible, il n'y a pas de visa, là encore. Donc là, est-ce qu'on peut parler d'un choix sioniste chez ces immigrants? Ni les uns, ni les autres, ni les troisièmes, je veux dire. On est dans une rhétorique qui n'a absolument aucun sens. On peut parler du fond, on peut parler du sionisme, on peut parler de l'antisémitisme, mais on ne peut pas se livrer à... D'ailleurs, j'observe que le président de la République n'en a plus parlé. Il a fait cette phrase le 16 juillet 2017, et puis depuis, il a évité de la répéter. Et son premier ministre, pareil. Donc ça veut dire que quelque part, l'exécutif n'était pas très à l'aise sur cette affaire.
Alors au-delà des liens avec l'extrême droite européenne, le gouvernement israélien a aussi des liens, bien sûr, avec Donald Trump. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette question?
Alors là, je vais profiter
des évangélistes, notamment.
Voilà, pour revenir au sujet du livre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, depuis 1967... un soutien majeur des États-Unis aux dirigeants israéliens, quels qu'ils soient. Parce que Israël est un État, un allié, qui joue un rôle important pour, aller vite, maintenir l'ordre dans la région. C'est vrai qu'avec Trump, ce soutien a pris un caractère inconditionnel où il y a une dynamique propre à Donald Trump, ce qui n'était pas le cas auparavant à Bush, enfin on pourrait remonter à travers l'histoire, on n'a pas cette espèce de position proactive, notamment avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc on a un phénomène qui mérite d'être analysé. Je crois personnellement, mais je ne je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais je crois, et beaucoup de spécialistes des États-Unis le pensent, que Trump, pour comprendre sa politique, le point essentiel, c'est la volonté de satisfaire son électorat pour pouvoir être réélu. C'est-à-dire que c'est vraiment un politicien particulièrement cynique qui va rechercher dans les problèmes qui sont posés aux États-Unis ce qui lui permet de satisfaire les siens. Alors les siens, c'est d'abord ce qu'on appelle aux États-Unis le lobby juif. Ils le disent, je veux dire, ils se présentent comme « Jewish lobby ». Sauf que ce lobby est très divisé. C'est-à-dire plus ça va et plus la proportion de juifs américains qui sont hostiles à la politique de Netanyahou et à celle de Trump, par la même occasion, ça se mélange un peu là, est importante. Et ça se retrouve dans les proportions de vote au niveau des partis américains, puisque aujourd'hui, les juifs américains votent à plus de 80% pour les démocrates et à moins de 20% pour les républicains. On n'a jamais eu des chiffres comme cela. Donc disons que, comme pilier de l'influence de Trump, il y a mieux, quoi. Et mieux, c'est les évangélistes. Et là, c'est une chose qui n'est pas comprise en France, qui est heureusement bien traitée dans le livre dirigé par Olivier. Les évangélistes, les juifs, il y a 5 millions de juifs aux États-Unis. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mais les évangélistes, c'est plus de 50 millions. Donc là, on est vraiment devant un tiroir-caisse électoral.
Je crois qu'il y a un point important, c'est quand on regarde la carte des États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Bible Belt, où c'est des gens très pieux, héritiers des protestants qui avaient fui les guerres de religion en Europe. Et le nom des localités reproduit la carte d'Israël. On a des noms bibliques. Et donc, les gens se projettent dans... Ils sont, d'une certaine manière, la Nouvelle Jérusalem. Et intellectuellement, c'est très facile pour eux de s'identifier à Israël.
Et j'ajoute, alors, ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Olivier, que leur credo, si j'ose dire, est alors d'une schizophrénie totale.
Oui.
Puisqu'ils sont pro-israéliens, à fond, c'est-à-dire... Ils veulent à tout prix défendre Israël, que tous les Juifs se rassemblent là-bas.
Pas avec toute la même finalité.
Mais avec le but que le moment venu, je vais vous dire quel est le moment, même ça je le sais, le moment venu, ils se convertissent de gré ou de force. Parce que la stratégie, bon, c'est un peu délirante, quand on le dit comme ça à la radio un soir, ça fait bizarre, mais c'est quand même leur stratégie, c'est que si tous les Juifs sont rassemblés en Terre Sainte et se convertissent, le Messie qui va, alors pas venir, parce que c'est des chrétiens là, donc revenir, il va pouvoir gagner la bataille du bien contre le mal, ce qu'on appelle Armageddon. C'est la condition de la victoire du Messie et donc du bien, c'est que les Juifs soient là-bas, je répète, convertis. Donc en fait... c'est comme la corde qui soutient le pendu. C'est-à-dire, apparemment, ils sont pro-israéliens, mais c'est quand même pour que le jour venu, les Juifs se convertissent ou qu'on les zigouille. Donc, c'est quand même... des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, quoi.
Ça fait beaucoup d'arrangements étranges. Hein,
Mais ça explique la politique de Trump. C'est-à-dire, c'est sur eux qu'il s'appuie. Et quand vous regardez tout ce que fait Trump... Bon, évidemment qu'il y a des aspects économiques de grande puissance aux abois qui essayent de défendre son précaré. Tout ça est vrai, bien sûr. Mais l'aspect de satisfaire le mur avec le Mexique, c'est pour satisfaire des petits blancs américains qui pensent qu'il y aura une majorité de latinos si ça continue.
Je crois qu'on peut dire qu'il y a même une dimension antisémite dans le soutien de Trump à Israël. C'est-à-dire qu'il est profondément convaincu de la puissance des Juifs. Et donc, pour réussir, il doit se les mettre dans la poche. Et je crois que ça explique une partie de sa stratégie. Bon, après, on peut aller plus loin avec l'alliance qui vise à mettre en place avec l'Arabie Saoudite, Israël contre l'Iran. Ça, c'est le prolongement de ce qu'on a dit avant.
Ce que tu disais, là, c'était sur Trump ou sur Manuel Valls?
Point de
je parlais de Trump.
Ah bon, d'accord. J'avais cru comme ça, cette espèce de dualité pro-israélien et antisémite. C'était un peu...
Alors peut-être comme le temps presse, pour faire le lien avec la pause musicale à venir, quels sont les liens éventuels entre le gouvernement israélien et la Russie nationaliste religieuse de Poutine ?
Les liens sont très forts. Et tous ceux qui ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils ont en tête l'Union soviétique et le fait que l'Union soviétique avait une politique anti-israélienne et pro-arabe, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Aujourd'hui, ce sont des populistes qui sont au pouvoir en Russie et des populistes qui sont au pouvoir en Israël. Et la meilleure preuve de ce que je dis, elle est simplissime, regardez la carte. Tous les jours, depuis plusieurs semaines, l'aviation israélienne bombarde la Syrie. Elle ne bombarde pas les Syriens, elle ne bombarde pas les Russes, elle bombarde les soldats iraniens. Qu'est-ce que font les Russes ? Rien du tout. Il laisse Israël bombarder à son aise. C'est quand même extraordinaire. Un degré de complicité tel. Et vous pourriez à cela ajouter qu'il y a 1 500 000 Russes en Israël sur 6 millions et demi de Juifs.
Ils sont même représentés par un parti.
Ils ont un parti à eux, bon, qui est un parti en perte de vitesse, mais enfin, ils ont un parti, ils ont des journaux, ils ont des radios, ils ont des télévisions. Et d'une certaine manière, Poutine joue sur la présence de cette communauté russe pour avoir les deux pieds bien au chaud en Israël. À quoi il faudrait ajouter, mais ce serait méchant à cette heure-là, qu'il y a aussi une mafia russe très puissante en Israël et que les dirigeants qui sont autour de Poutine ont sans doute quelques liens avec cette mafia.
Alors malheureusement, on ne va pas avoir le temps de rester trop longtemps sur la Russie de Poutine, mais on va faire un petit clin d'œil musical avec les Pussy Riot.
Some of you may become somewhat uncomfortable as parts of this film unfold. If you listen carefully, you will agree that the concepts will contribute to the rearing of a mature person who has a healthy, responsible attitude toward the sexual side of his life.
Fréquence, Paris Pluriel 106.3, vous êtes dans ce cycle un peu spécial nommé Pause commune que nous avons amorcé début janvier et ce soir dans une émission consacrée au nationalisme religieux avec Dominique Vidal et Olivier Dallage pour nous accompagner et Julie, ma compère. Nous en étions restés à la question israélienne, évidemment, comme on vous l'a dit en début d'émission, on pourrait faire une émission sur chaque cas, entre guillemets, mais on a envie d'entendre Olivier Dallage sur la question indienne et le nationalisme religieux en Inde, parce qu'il me semble, en tout cas, ça l'est pour moi, une question moins connue. D'emblée, est-ce que je me suis un peu perdue en fait dans mes petites feuilles, j'arrive. En Inde, le nationalisme religieux s'inscrit aussi en réaction à la sécularisation précédente. On en parlait aussi face à la déception, par exemple, du parti du Congrès, enfin face à. Comment définiriez-vous le nationalisme hindou, Olivier Dallage, parce que je me perds, et sur quel terreau a-t-il poussé ?
Comme vous l'avez dit, il a poussé sur le terreau de la déception vis-à-vis du parti du Congrès. Le parti du Congrès, c'est un exemple qu'on retrouvera avec l'ANC en Afrique du Sud ou l'OLP chez les Palestiniens. C'est-à-dire que c'est un mouvement de libération nationale qui regroupe des gens extrêmement divers, en fait qui regroupe la population qui aspire à se libérer et qui se transforme en parti politique de gouvernement. Donc les contradictions qui étaient étouffées par l'aspiration nationale se révèlent et ceux qui dirigent en déçoivent un certain nombre. Donc Nehru, qui lui-même était effectivement laïque, là aussi on peut penser qu'il était même athée. Et d'ailleurs, quand il reçoit Malraux, qu'il a raconté dans un de ses livres, Malraux lui dit « Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?» Bon, Nehru a quand même été Premier ministre de l'indépendance 47 à sa mort en 64. C'est une longue période, puis il dirigeait la diplomatie. Il dit « Le plus difficile, ça a été de faire d'un pays religieux un pays laïque. » Sauf que l'erreur, c'est qu'il n'a pas fait de l'Inde un pays laïque. C'était une illusion. Et le courant nationaliste religieux qui, comme on le disait tout à l'heure, s'était créé à la fin du 19e siècle, qui avait été relativement marginalisé, a repris du poil de la bête. Et
Alors grâce à cet échec du parti du Congrès, enfin échec entre guillemets...
Non, ce n'est pas échec entre guillemets, ils ont échoué. Et puis, je veux dire, un parti au pouvoir qui reste très longtemps... Il succombe à la tentation, il y a des cas de corruption, etc. Donc, il y a eu des énormes cas de corruption dans le parti du Congrès, pour faire les simples, parce qu'il y a eu d'autres épisodes avant. En 2014, le parti nationaliste religieux, le BJP, a emporté les élections avec une majorité absolue à la Chambre basse. Bon, 31% des voix seulement, mais c'est le système électoral qui veut ça, parce que les autres étaient très, très divisés.
Il a été élu aussi sur de belles promesses. Alors, de développement économique.
Exactement, sa campagne n'a pas...
Pas seulement sur le nationalisme religieux.
Pas du tout, en réalité. Sa campagne n'a pas du tout été fondée sur le nationalisme religieux, mais sur la promesse de lutte contre la corruption et d'un développement inclusif. Et du développement économique, puisque à la tête de Gujarat, il avait présidé à un taux de croissance assez impressionnant. Et donc, il disait « Ce que j'ai fait pour le Gujarat, je le ferai pour le pays tout entier ». Et comme en face, il avait affaire à des gens qui étaient en pleine déconfiture, il a remporté largement les élections. Sauf que les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que les gens attendaient. Et surtout, les emplois ne sont pas au rendez-vous. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'idéologie divisée, polarisée, en espérant que c'est ça qui va les faire gagner.
Et qui est complètement assumé, parce que vous le disiez, c'est pas sur ces bases-là qu'il s'est fait élire. Aujourd'hui, Modi l'assume complètement,
Il l'assume en grande partie, mais ce que lui ne dit pas, des gens qui sont proches de lui le disent ouvertement. Et il est très intéressant de voir. Bon, alors, un des aspects de tous ces partis nationalistes, c'est que quand ils arrivent au pouvoir, ils s'occupent des manuels scolaires. C'est vrai en Israël, c'est vrai en Inde, c'est vrai ailleurs. Et en Inde... On touche l'histoire, parce que c'est culturel. Et donc, on efface des manuels le rôle de tous ceux qui ne n'appartiennent pas. Donc, par exemple, dans l'État du Rajasthan, que le BJP a dirigé pendant quelques années, ils viennent de perdre les élections de cet État, la chef du gouvernement avait fait disparaître le nom de Nehru
des monnaies scolaires. On peut penser ce qu'on veut de Nero et du Parti du Congrès. Il a quand même joué un rôle historique important. Et on réécrit l'histoire aussi pour faire jouer aux nationalistes religieux un rôle qu'ils n'ont pas joué. En fait, certains d'entre eux étaient même des collaborateurs dans le fait d'avoir chassé les Anglais. Et aujourd'hui, l'assassin de Gandhi est présenté par un grand nombre de ces nationalistes religieux comme un héros. Alors Modi lui-même rend hommage à Gandhi, à qui il a confié le rôle d'une icône en quelque sorte pour nettoyer l'Inde, le Gange, etc. Enfin, c'est juste comme une marque d'aspirateur. Mais ses partisans considèrent que Gandhi est un lâche qui a vendu l'Inde aux musulmans en permettant la partition.
Je voulais juste demander à Olivier, parce que moi je ne suis pas spécialiste de l'Inde, est-ce que le fait que Modi se replie sur ce discours nationaliste religieux, ce n'est pas un élément extrêmement préoccupant pour la suite, parce que ça peut faire boomerang, quoi.
Boomerang de quelle façon ?
C'est-à-dire que c'est trop pour une population qui ne l'a pas élue pour ça. Elle l'a élue pour des promesses. Est-ce qu'elle est prête à marcher dans ce système idéologique, quoi ?
Alors, la vérité oblige à dire quand même qu'une grande partie d'hindous qui n'étaient pas idéologisés, aujourd'hui, reprennent à leur compte ce discours selon lequel on en fait trop pour les minorités, pour qu'ils se prennent ces musulmans. Alors, pour fixer les idées, on a plus de 80% d'hindous, 14% de musulmans, le reste se partageant entre 4% de chrétiens et les autres religions. Donc, cela dit, il vient de connaître quelques épisodes électoraux qui n'étaient pas très très heureux. Il n'est pas sûr du tout que dans quelques mois, il remporte les élections. Mais on ne va pas faire des plans sur la comète. Le discours est assumé, et surtout il est assumé par une myriade d'organisations qui gravitent autour du BJP et qui, pour certaines d'entre elles, ont un discours beaucoup plus direct. Le BJP lui-même...
Le RSS...
Alors le RSS, c'est la matrice du BJP. Il a été fondé en 1925 sur le modèle fasciste, comme les phalanges chrétiennes au Liban, comme beaucoup d'autres partis. Ils ont des cérémonies paramilitaires où tous les matins ils font le salut au soleil en uniforme et avec des bâtons. Ils sont formés aux techniques martiales. Et bien que ce soit théoriquement pas un mouvement politique mais culturel, ils se donnent un rôle idéologique évident. Et ils délèguent certains de leurs meilleurs cadres au BJP pour qu'ils deviennent des politiciens. Donc,
Modi vient du RSS ?
Modi a été ce qu'on appelle un pracharak, c'est-à-dire un dirigeant. Pas de section, mais au niveau d'une région entière du RSS. Oui, il est formé idéologiquement, il est formaté par le RSS et il a été un de ses dirigeants.
Et le VHP, c'est une milice encore produite.
C'est pas exactement une milice, mais c'est un autre mouvement qui est également pour la défense des hindous. Et c'est le VHP, en fait, qui, par exemple, a organisé le sac de la mosquée Babri à Ayodhya en 92, dont les soubresauts ont provoqué des milliers et des milliers de morts. Et aujourd'hui, un des enjeux de la campagne électorale en cours, du côté du camp nationaliste hindou, c'est ce qu'ils appellent la reconstruction, ou la construction, si on n'y croit pas, du temple de Ram à l'emplacement que l'empereur Babur, qui était un envahisseur moghol, le premier en fait de la dynastie, a construit sur le lieu supposé de ce temple de Ram. Et donc, on se retrouve finalement dans un combat très proche de ce qu'on trouve à Jérusalem. C'est-à-dire, on se bat non seulement pour des idéologies, mais pour la possession d'un endroit symbolique qui est censé être authentique.
Et depuis l'arrivée de Modi au pouvoir, depuis 2014, on constate une évolution des discriminations à l'encontre des musulmans. J'avais relevé une étude statistique qui montre que sur la période 2010-2017, 97% des actes et violences discriminatoires envers les musulmans indiens avaient été commis donc après 2014.
Il y a notamment des attaques par des milices de volontaires pour la défense de la vache. La défense de la vache, c'est quelque chose qui est très important dans l'hindouisme moderne. Je dis moderne parce que, en fait, dans les temps anciens, les brahmanes mangeaient de la viande de bœuf et on leur donnait même les meilleurs morceaux. Mais bon, pour
mais
des
ça,
raisons...
on a gommé.
Oui, c'est gommé du souvenir. Et pourtant... Swami Vivekananda, qui est un des grands réformateurs hindous de la fin du 19e, avait fait un discours dans lequel il rappelait ce fait, et c'est pourtant quelqu'un qui inspire beaucoup les nationalistes hindous aujourd'hui. Toujours est-il que les tanneurs Et ceux qui travaillent dans la filière de la boucherie, de la viande bovine, ce sont essentiellement soit des dalits, c'est-à-dire des intouchables, soit des musulmans. Et de plus en plus d'États interdisent la vente, la commercialisation de la viande de bœuf, et ces milices attaquent des gens qui sont soupçonnés soit de consommer de la viande, soit de transporter du bétail vers les abattoirs. Et il y a eu des meurtres, des gens battus à mort par la foule. Et oui, depuis quelques années, ça fait des dégâts.
Et puis si l'industrie était de la viande, de l'exportation de la viande, etc., était tenue par une majorité de musulmans, c'est aussi beaucoup d'emplois perdus, un chômage, enfin en plus des conséquences physiques dans la chair,
oui.
Là, cette violence-là, il y a aussi cette violence sociale.
Il y a d'ailleurs une conséquence qui n'avait pas été prévue, c'est que ces bêtes qui ne sont plus abattues, aujourd'hui se baladent librement et saccagent les terrains des cultivateurs, dont beaucoup sont hindous par ailleurs. Donc c'est compliqué.
Et dans la continuité de ces discriminations, ces exclusions, alors j'espère que je prononce bien, le Bajrangdal mène des opérations de reconversion de chrétiens et de musulmans vers l'hindouisme.
L'idée, c'est que tous les Indiens sont hindous. Alors, il y a eu des envahisseurs étrangers qui ont, par la violence ou la coercition ou en échange de corruption, en donnant de l'argent... Ces hindous ou leurs aïeux ont été convertis soit à l'islam, soit au christianisme. Donc même dans les États où il y a des lois contre la conversion, et il y en a, ça n'est pas considéré comme une conversion, mais comme un retour à la maison. Ghar wapsi. C'est une reconversion, et donc en fait, ça échappe à l'interdiction de la conversion. Et le Bajrangdal est une milice qui est spécialisée là-dedans et qui est très violente. Ses membres se baladent avec des tridents, le trishul de Shiva, et ils s'en servent quelquefois.
Ce ne sont pas des reconversions pacifiques.
Ça peut l'être, mais souvent, il y a une forte coercition qui l'accompagne, oui.
Et face à tous ces actes violents, la position, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la position du gouvernement de Narendra Modi...
Il regarde ailleurs.
Il ne l'assume pas complètement.
Il ne l'assume pas du tout.
D'accord.
Et quand les excès sont trop importants, il fait un discours un ou deux ans après pour dire il ne faut pas prendre la justice entre ses mains, laisser les autorités, etc. Mais du coup, ses adversaires considèrent que c'est hypocrite et ses partisans se disent, vous voyez bien, il ne nous a pas condamnés quand ça s'est produit, ça veut dire qu'il fait ça juste pour la galerie.
Et donc 5 ans après l'élection de Modi, il semblerait que le sentiment de déception commence à gagner l'Inde, la désillusion par rapport à ce pouvoir en place. Est-ce que ça veut dire que pour autant que l'Inde s'apprête à refermer cette parenthèse nationaliste religieuse ?
Non, je ne crois pas. C'est-à-dire
elle est très ancrée.
Ça représente quand même du monde. Alors, qu'il gagne ou qu'il perde les élections ou qu'il les gagne dans des conditions qui l'obligent à faire des coalitions avec des gens qui limiteront sa marge de manœuvre, tout est possible. Mais on ne peut pas nier que cette vague d'intolérance et de nationalisme exacerbée... Bon, je prends un autre exemple. On a réintroduit il y a quelques années l'obligation de se lever pour l'hymne national au début de la projection des films dans les cinémas. Ça n'existait pas, ça a été introduit. Et aujourd'hui... il y a eu des cas de gens qui ont été battus comme plâtres parce qu'ils ne s'étaient pas levés au moment de l'hymne national, y compris des étrangers de passage qui ne savaient pas. Bon, ils auraient pu faire comme tout le monde, mais ils étaient restés assis. Ou même des handicapés qui ne pouvaient pas se lever. Donc ça donne, je dis ça, c'est pas très important numériquement, mais ça donne une idée de la tonalité dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, bien sûr, on peut même espérer qu'il va y avoir un retour en arrière sur cette tendance, mais moi, je pense que c'est une tendance profonde et qu'elle est là pour durer, même s'il perd le pouvoir.
Alors, on n'a plus le temps pour une dernière question, on en avait plein, mais en conclusion, on va sortir de l'Inde. Et selon vous, les nationalismes religieux nourrissent-ils alors la possibilité du fascisme, je sais pas si c'est le terme, on pourrait plutôt le dire, comment le référent religieux joue-t-il un rôle dans la fascisation possible des nationalismes autoritaires ?
Ceux qui cherchent à exclure le font d'autant plus que ceux qu'ils vont exclure ne sont pas combattent la divinité authentique, quelle qu'elle soit. Et donc si on fait ça au nom de Dieu, c'est encore plus fort que si on le fait au nom de ses propres convictions. Donc c'est encore plus intolérant.
Parce qu'on ne peut pas le remettre en question. Vous voulez répondre là-dessus, Dominique Vidal ?
Non, mais je pense que l'utilisation du terme fascisme pose problème.
Oui.
Surtout dans ce contexte-là. Parce qu'on peut penser que les populismes d'aujourd'hui sont des formes de fascisme. Mais de là à faire des parallèles
avec un système donné à un moment donné, l'Italie de Mussolini ou le nazisme avec Hitler, ça me paraît brouiller les cartes. Parce que bien sûr, on va dire, bah non, évidemment, on n'est pas,
dans le même contexte,
d'une guerre mondiale, historique, d'un génocide. Mais il n'empêche que ce que nous vivons est très inquiétant, même si ça n'est pas comparable à ce qu'a été le fascisme ou à ce qu'a été le nazisme. Il ne faut pas banaliser des comparaisons qui, du coup, amènent à ne pas mesurer les risques qui sont induits dans tous ces phénomènes dont nous avons parlé.
Si les nationalismes religieux représentent le grand danger auquel nous faisons face, pour terminer, comme ça, c'est une question très subjective, alors quels sont les moyens de les combattre selon vous ?
Bah, il faut déjà le comprendre. Moi, je suis frappé, enfin, quand on a travaillé dans la préparation de ce livre, j'ai mesuré à quel point ce phénomène n'avait pas été envisagé dans son ensemble jusqu'à très récemment. Il y a des monographies, on prend tel et tel exemple, mais on l'avait peu ou pas vu dans sa globalité. On commence à le faire, donc déjà comprendre le phénomène, ça permet ultérieurement de le combattre.
J'ajoute qu'il y a des milliards de choses qu'on peut faire, mais avec la claire conscience que tant qu'il n'y aura pas d'alternative, on sera dans le piège. La seule manière de sortir du piège, c'est d'avoir une alternative globale d'ailleurs, mais aussi dans chaque pays, qui permette d'offrir un espoir, d'offrir une voie pour sortir de tout ça. Sinon, que voulez-vous ? Regardez la Ligue italienne, je termine là-dessus pour que ce soit bien net. Elle a eu 17% des voix le 5 mars dernier. Dans les sondages, elle est à 35. C'est-à-dire en moins d'un an, elle a doublé son influence politique. Et Dieu sait que s'il y a quelque chose qui ressemble de plus en plus au fascisme, c'est bien la Ligue italienne. Parce que Salvini passe son temps à citer Mussolini sans le dire. Il utilise des phrases que tous les Italiens âgés reconnaissent comme étant des phrases de Mussolini. Voilà dans quelle situation on est quand il n'y a pas d'alternative.
Là, on va retenir compréhension et alternative pour finir. Je vous remercie Dominique et Olivier, Dominique Vidal et Olivier Dallage, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Très sincèrement, ça nous a fait très plaisir. Merci Julie, enfin merci Big Up. Et merci évidemment un pouce levé à Marion de Constreuil qui nous a fait la technique ce soir. Et je termine très vite. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de ce cycle en podcast sur www.rfpp.net. Celle de ce soir sera mise en ligne lundi, donc patience. Et puis à venir pour clore le cycle, une dernière émission sur le dimanche 27 janvier de 18h à 20h sur Résistance Antifa au travers de la musique punk par les copains de Constreuil. Et pour terminer in vivo cette proposition, samedi 16 février, nous vous donnons rendez-vous au bar de la solidarité qui se trouve attenant à la radio pour une soirée Résistance plurielle. Donc peut-être imaginons ensemble les alternatives. Résistance plurielle, soirée de projection et de discussion autour du film L'amour et la révolution de Yanis Yonuntas. Donc alternative, compréhension, amour et révolution. Je vous souhaite une bonne soirée. Et le 10 février, il y a la soirée de soutien au CICP. Vous avez plus d'infos sur www.rfpp.net. Et merci aux copains de Zoom Écologie de nous avoir laissé déborder. Salut. Et on termine par les Prouters. Je suis mon gars et j'ai du bol, ma